Tout pour investir, le déchiffrage.
Olivier Le Chevalier d'Eftage, bonjour.
Bonjour Antoine.
Et Bastien Baron de Juste à...
Bonjour Antoine.
Merci d'être en direct. On va parler de trois thématiques qui nous intéressent. L'énergie, les matières premières et la souveraineté. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, parce que c'est vraiment les trois dynamiques qui nous portent en Europe, si on sort un petit peu de l'ordinaire de la tempête autour de l'IA et des arbitrages autour de la valorisation de l'IA qui concerne plus les marchés américains. On va peut-être commencer par le pétrole. On en sort, ça y est, $75 pour le Brent. Et malgré l'agitation géopolitique, malgré le fait que rien n'est sûr sur les accords, le cadre de l'accord, l'accord de paix, les négociations entre Iran et les États-Unis, bon, on en a pour deux mois là, malgré tout, le pétrole, ça y est, semble avoir refermé le couvercle. C'est-à-dire qu'on a pu ces brusques poussées spéculatives au-delà des $100. On est vraiment installé du côté des 80, un petit peu moins, là, 75. Est-ce qu'on n'a pas fixé les bornes du côté des marchés? Est-ce qu'on ne s'est pas dit, voilà, ça y est, on y est et on n'en bougera plus cette fois?
Alors ça, je ne peux pas vous dire si on va en bouger ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ce qui s'est passé, c'est effectivement, depuis qu'il y a eu l'accord, bah, ça a détendu quand même le marché, ça a permis à tout le monde un peu d'être rassuré, de se dire que tout le monde peut-être pourra partir en vacances, on pourra voyager. Ça, c'est plutôt sympa. Mais typiquement, en fait, ce qui se passe, c'est quand même le négociateur de l'Iran a quand même précisé qu'il ne laisserait pas passer les bateaux comme ça.
Ben voilà.
Donc du coup, ce qui se passe, c'est que sur le marché, la prime de risque liée au pétrole, elle est encore là. Donc du coup, on ne sait pas pendant combien de temps ça va s'installer, mais en tout cas, pour le moment, c'est vrai que c'est dans la prime de risque, c'est pricé autour du prix. Donc est-ce qu'on va avoir les mêmes niveaux que le souhaitait Trump avant la période des Trois d'Hormuz? C'est peu probable pour le moment, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais effectivement, on a pricé cette prime de risque sur le marché, et donc là, on va peut-être aller dans les 70, 75, on va peut-être s'étalonner pendant cette période. Et donc, du coup, on a ce moment, en fait, un peu délicat, où de toute façon, tant qu'on n'est pas figé non plus sur tout ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, on va, je pense, encore un peu tâtonner sur cette partie.
Effectivement, et c'est assez contre-intuitif d'ailleurs, parce que alors on en parle depuis des mois du côté de nos invités sur Tout pour investir, mais on a l'or, par exemple, qui continue de baisser, alors que les incertitudes sont quand même fondamentalement au plus haut, alors que l'inflation repart, alors qu'on a des incertitudes monétaires un peu partout. Mais non, rien à faire. La valeur refuge, la valeur défensive par excellence, c'est le dollar. On n'en bouge pas. Et l'or finalement corrige très très nettement. On commence à attaquer les $4,000. Et c'est vrai qu'avec nos invités, on était tenté de se dire, oui, bon, il y a une saine consolidation, on était monté trop vite, trop fort, c'est un petit peu comme la tech ou l'IA. Là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est peut-être un petit peu en train de changer, Bastien Baron?
À court terme, potentiellement. Ouais. On voit qu'il y a eu quand même aussi une forte spéculation sur tout le début d'année, janvier-février. Ensuite, il y a quand même eu des ventes non négligeables qui ont eu lieu. Certaines banques centrales, notamment en Turquie, pour soutenir la monnaie, en Russie, pour financer la guerre. Donc ça, c'est des vrais sujets. On voit que finalement, depuis deux semaines, on a aussi une décorrélation absolument parfaite entre suite au discours de Kevin Warsh concernant le dollar qui est en train de s'apprécier du coup de manière assez forte, hein, depuis à peu près deux semaines. À l'inverse, du coup, l'or est directement libellé en dollars. Donc on voit l'effet inverse qui se produit. Et puis il y a un truc qui est assez simple, c'est qu'il y avait quand même, si on se positionne au début d'année, il y avait quand même des anticipations de baisse de taux qui étaient attendues. Finalement, là, suite, on voit que la Banque Centrale Européenne vient d'augmenter. On voit que la Fed, c'est quasiment fait pour qu'il n'y ait pas de baisse cette année. On discute potentiellement plutôt de hausse. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a des rendements, en fait, qui peuvent être attendus sur la partie dollar, sur la partie dette, sur les govies, etc., qui peuvent être intéressantes. Et il ne faut pas oublier que l'or ne rapporte rien. Donc c'est un vrai sujet aussi, je pense, pour la suite. Donc nous, à court terme, on n'est pas forcément très positif sur l'or, mais dans un scénario de plutôt une approche long terme, on pense que c'est toujours intéressant. Surtout qu'il y a eu aussi pas mal de... Vu qu'il y avait eu de la spéculation en début d'année, il y a eu pas mal de ventes qui ont été faites sur les parties, sur les ETF gold.
Oui, beaucoup sur l'or papier. Hein.
Exactement. Ouais, ouais. Et derrière, pour aller vers quoi? Vers la tech. Donc c'est ça l'arbitrage qui a été fait. Donc ça veut dire que si on...
SpaceX.
Ouais, par exemple. Ouais, ouais. Donc ça veut dire que derrière, si on veut être diversifié dans un patrimoine assez diversifié, finalement l'or, à long terme, en tout cas, reste toujours intéressant, surtout si on était positionné depuis quelques années et le chemin parcouru a quand même été assez dingue sur les 24 derniers mois.
Ouais. Non, ça, faut pas l'oublier. Et puis, il y a beaucoup de particuliers qui se sont positionnés et certains qui commencent à faire comme en Asie, où là, on connaît un petit peu le mécanisme, mais où chaque phase de repli est peut-être l'occasion de se replacer. Hein. Les spécialistes de l'or nous le disent. En tout cas, c'est peut-être une source intéressante.
Ouais. Il y a la Chine, là, c'est le 19e mois consécutif. Ouais. Finalement, ils augmentent en fait leurs réserves aussi
c'est ça.
Au niveau de la Banque centrale. Donc, les banques centrales sont toujours net acheteuses depuis le début de l'année. Ça va continuer ainsi. Ça va être une bonne transition, je pense, aussi sur tous les sujets de souveraineté
qu'on
va pouvoir aborder. Et le sujet de l'or en fait partie. Quoi.
C'est un petit peu un jeu de dupe, d'ailleurs, sur les marchés, parce que, on joue le dollar valeur refuge, mais parallèlement, on voit un phénomène de dédollarisation qui est une tendance, je dirais pas lourde et décisive pour le moment, mais qui est quand même bien installée. Donc, le dollar valeur refuge. Et puis par ici, l'or, quand même.
Là, ce qui fait quand même le jeu, comme le disait Bastien, c'était surtout, on a le dollar qui se renforce, parce que mécaniquement, on a Kevin, qui, moi, je pense, va peut-être augmenter, peut-être davantage ses taux. Hein. Moi, je suis plutôt dans cette direction.
En tout cas, il est beaucoup plus dans cette direction. De ce côté-là que prévu. Oui.
Exactement. Et donc, pour moi, c'est pour ça qu'il va jouer la limite pour cette partie. Donc là, déjà, c'est un peu calmé l'inflation par rapport au pétrole. On a cette partie or, effectivement, qui se dégonfle un petit peu. Et en fait, l'or est quand même lié à l'argent. Il y a quand même une corrélation. Sauf que l'argent, là, elle se déprécie deux fois plus vite que l'or. L'argent est quand même corrélé à cette valeur un peu refuge, par mécanique sur par rapport à la alors et puis elle est aussi vecteur industriel, donc on voit bien qu'elle est là. S'il n'y a pas de demande, s'il n'y a pas, etc., on va jouer ça, donc on va jouer un peu le repli. Donc mécaniquement, c'est vrai que si, comme disait Bastien, l'or faiblit, c'est parce que si le dollar s'est renchéri, donc du coup on a plus de mal à acheter, parce que du coup ça coûte plus cher, donc c'est pour ça que l'offre est un peu moins importante.
Puis il faut pas oublier que l'argent est monté en flèche aussi dans le sillage de la grande rue vers l'or.
Exactement.
Et ça a un peu amplifié le mouvement. Oui.
Exactement. Et puis après, les investisseurs se sont dit, tiens, j'ai des appels de marge, donc forcément, je me retire. Donc ils ont retiré d'énormes positions, et c'est pour ça que ça fait redescendre les éléments. Mais c'est vrai que là, sur cette dynamique de taux, en tout cas, je pense qu'elle avait augmenté, et puis l'or va un petit peu reculer pour le moment. Il faudra encore un peu des éléments, je dirais, mécaniques sur le marché pour pouvoir dire, est-ce que l'or repart à la hausse. Je suis un peu sceptique aussi par rapport à l'or, même si la dynamique des pays émergents, c'est de quand même monter à 25% dans leur bilan d'avoir de l'or. C'est la dynamique, elle est là, mais est-ce qu'on n'est pas arrivé sur des phases trop hautes, entraînées en termes de valeur refuge, alors que là, on voit une reprise, en tout cas, des US, qui reprennent la politique monétaire un peu de manière un peu plus strong, un peu plus dure.
Ouais, absolument. Et là, encore une fois, on se retrouve autour des problématiques de souveraineté. On change un peu de sujet, même si on reste un petit peu sur c'est un petit peu chacun pour soi. C'est-à-dire que là, il y a quand même une décision qui vous intéresse tous les deux, et c'est cette décision du gouvernement de choisir Schaps Vision par rapport à Palantir pour nos opérations sensibles, pour la DGSI, etc. Je serais tenté de dire, il y a quelques mois, l'Allemagne nous a quand même vendu qu'elle allait construire son cloud souverain avec Amazon. Il n'y a personne qui les a regardés en disant « Non, mais ça ne va pas ». Et dans le même temps, je serais tenté de vous dire « Encore heureux, vu la proximité de Palantir avec le pouvoir américain et alors surtout avec la galaxie Trump, etc. Est-ce qu'on va fournir notre cloud souverain pour les informations sensibles à une boîte comme ça ?» Bon, on peut dire que c'est de bon sens, mais on a l'impression que c'est un chemin qui est paradoxalement assez lent, finalement.
Peut-être qu'on commence enfin à réagir. On va dire qu'aux États-Unis, en France et en Europe, on a souvent tendance à subventionner les sociétés plutôt finalement qu'à les utiliser, à leur créer du chiffre d'affaires comme c'est le cas là.
Voilà, en étant un client.
Oui, en étant client, exactement. Les États-Unis, c'est exactement ce qu'ils font. Ils bossent quasiment qu'avec des acteurs américains, et ce qui fait qu'ils ont des gros moyens et ça permet de se développer aussi de manière, d'un point de vue international. Le marché est beaucoup plus gros. Là, on voit quelque chose qui est assez intéressant. Schaps Vision, c'est une boîte qui est assez récente. Hein. C'est seulement depuis 2019 qu'elle existe. Elle travaille déjà avec l'Allemagne, et notamment les services secrets allemands. L'Allemagne a déjà sorti Palantir de son scope. Là, la France est en train de le faire. Pour information, ils ont un contrat jusqu'en 2028, donc ça va se faire aussi de manière progressive. Et on voit que c'est un peu un effet domino. Pourquoi ? Parce que là, je regardais, il y avait aussi la Pologne et le Danemark qui sont aussi en train de se poser les mêmes questions. Et mine de rien, France-Allemagne, c'est un peu plus d'un tiers, on va dire, du PIB européen. Donc, quand ce genre d'acteur commence à faire des appels d'offres et des audits en disant peut-être que c'est mieux de se positionner sur un autre acteur que celui qu'à peu près tout le monde a aujourd'hui. C'est assez pertinent. Palantir, ils étaient assez largement en avance, on va dire, aussi sur ces sujets-là. Donc, ce n'était pas si idiot que ça de bosser avec eux à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a un acteur en fait, qui est capable de faire un job assez similaire. Sur l'analyse. Le sujet, en fait, c'est l'analyse de la data. Donc, data critique, donc tout ce qui est fraude, lutte contre le blanchiment, etc. Et finalement, ils sont capables de très bien le faire aussi à Chef Division. Donc très bien, au moins qu'on fasse travailler les pépites françaises et européennes en priorité.
Le seul problème, j'allais dire, Olivier Le Chevalier, vous suivez ça de près, notamment vis-à-vis des métaux critiques, des choses vraiment très sensibles, parce qu'on est sur le même niveau de souveraineté, hein, finalement, c'est ce sentiment à la fois qu'il faut réveiller l'Europe, mais qu'en même temps, à chaque fois, c'est un peu chacun pour soi. J'en veux pour preuve les récents programmes communs entre l'Allemagne et la France qu'on n'arrive décidément pas à mettre ensemble sur un projet commun, que ce soit le SCAF. C'est pas nouveau, hein. Le Rafale était né parce que, justement, il y a un projet commun qui avait capoté aussi. Résultat, on s'est retrouvé avec le Rafale d'un côté et le Typhoon de l'autre, qui sont à peu près les mêmes avions, globalement.
Il y a Airbus. Il y a juste Airbus.
Oui, voilà. Alors, du coup, c'était cet ensemble-là. Mais... on a l'impression qu'on a deux couches de souveraineté, finalement. Et c'est peut-être ça qui est le plus compliqué à gérer sur les marchés, finalement.
Effectivement, bon, on a le sujet des outils, mais sur les métaux critiques, c'est vrai que là, on l'a revu. Enfin, là, du coup, c'est un peu outre-Atlantique, parce que c'est une société américaine qui a récemment acheté une société pour 1,9 milliard, quand même, hein, un aimantier allemand. Enfin, voilà, parce que du coup, en fait... tout le monde se dit, bon, le détroit d'Hormuz, quelle est la leçon? Il faut quand même récupérer une autonomie, il faut quand même être indépendant, il faut pouvoir être autonome. Donc ça, de toute façon, on l'avait déjà vu, je dirais, pendant le Covid, ça commence à démarrer. Je reviens toujours sur cet exemple, mais où le Venezuela avait dit, bon, moi, je veux peut-être ma cotation du baril en yuan chinois. Donc du coup, ça avait fait un tollé, tout le monde n'était pas content, etc. Mais ça commençait, on commençait déjà à voir une scission du monde qui était en train de dire, j'ai d'un côté la Russie, j'ai d'un côté les États-Unis, et puis j'ai un peu l'Europe qui joue de manière un peu soft au milieu. Et puis maintenant, ça commence à s'accentuer de plus en plus. Le détroit d'Hormuz a bien montré que chacun devait jouer sa partition, que chacun devait se garantir sa souveraineté. Et même au niveau européen, on voit bien qu'on n'a pas toujours les mêmes intérêts et la même dynamique entre pays du Sud, pays du Nord, et qu'on n'a pas les mêmes programmes. En plus, aujourd'hui, hier, c'était les 10 ans du Brexit, donc on voit bien que la trajectoire de sortir de l'Europe, pour eux, a été plutôt négative. Mais tout ça fait quand même qu'il y a quand même une partition qui se joue à l'intérieur de l'Europe et une partition qui se joue un petit peu avec les extérieurs. On est en train d'essayer de gagner son indépendance tout en faisant croire aussi qu'on va s'appuyer sur les voisins. D'un côté, je trouve pas ça forcément normal. Alors du coup, si on parle d'être autonome en Europe, qu'on laisse partir une société allemande dans les mains d'une société américaine parce qu'ils veulent contrôler la partie métaux rares, etc. On le voit parce que du coup, la Chine, elle a réagi aussi. Elle a commencé à rebloquer un peu des exports en disant vous voyez, vous faites un gros rachat. Super, c'est sympa.
Et moi, je riposte. Sur ce secteur-là. Hein, la Chine qui a dit qu'ils sont très vigilants sur les. Et notamment, notamment les rapports avec les sociétés américaines à ce niveau-là.
Exactement. Donc, vous avez. En plus, la Chine joue aussi le rôle de dépollueur au niveau mondial. Donc, c'est sûr qu'elle se récupère pas mal de métaux et donc, forcément, elle peut les réutiliser. Mais vous voyez, on se retrouve vraiment dans une phase critique où là chacun va jouer sa partition. On l'a vu sur le pétrole, c'est dit on n'a jamais mis autant d'efforts aussi pour pouvoir produire du jet Kero pour que les sociétés d'aviation ne soient pas impactées plus que ça et que tout le monde puisse continuer de voyager. Mais en fait, on est en train de se rendre compte que on a mis beaucoup d'efforts là pour devenir autonome d'une manière générale. Et les projets ESG, qui était de dire je fais de l'éolienne, de l'énergie verte, en fait, elle n'est pas là forcément pour remplir, c'est peut-être ce premier plan, mais plutôt, ils sont remis au goût du jour parce qu'on veut être indépendant énergétiquement.
Ouais, on avait mis la charrue avant les bœufs, finalement.
Il fallait trouver, je pense, quand la dynamique des marchés était relativement basse, peu dynamique, trouver des incentives pour les sociétés pour qu'elles puissent y aller. Alors que là, on a vraiment un incentive relativement important, redevenir indépendant, et donc on le voit sur tous les pans. On le voit sur la sécurité, on le voit sur l'énergie, et on le revoit sur... le tissu économique.
Bastien Baron, ce chacun pour soi général, et malgré tout avec ces couches successives de souveraineté et de prise de conscience d'un certain nombre de problématiques, ça peut être justement encore une fois un élément de plus à ajouter à cette espèce d'univers où on n'hésite plus trop à parler de déflation, de récession, etc. Ça peut être un obstacle de plus.
Alors, je pense que du coup, ça peut être l'effet inverse, mais je pense qu'on est en pleine démondialisation et qu'on, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit juste avant. On voit que la Chine, justement, a un peu les cartes en main et que peut-être que les terres rares, c'est un peu le pétrole d'il y a un siècle et plus. Et que finalement, bah, ils le contrôlent. Donc, ils contrôlent une grosse partie aussi du raffinage et ce genre de choses. Donc, ça, c'est un vrai sujet. On voit aussi que par rapport au pétrole, pour boucler un peu la boucle, la Chine, sur l'évolution de la demande d'énergie dont elle a besoin depuis 2 ans, finalement, bah, c'est là où elle a extrêmement augmenté, on va dire, ses capacités photovoltaïques et éoliennes.
Donc, c'est bien avancé. Hein. Voilà. Bon, c'est toujours 60% de charbon, mais ça avance vitesse grand V sur ce qui est panneaux solaires et éoliennes, bien sûr.
En gros, la moitié du développement mondial, en gros, il se fait en Chine aujourd'hui. Bah, voilà. C'est le sujet, donc ça va très vite. Et on se rend compte que bah, si on veut redevenir souverain, mine de rien, on s'est pris... en 2022, il y a eu le sujet du gaz russe. Ensuite, on voit qu'il y a le détroit d'Hormuz. Si en Europe, on veut redevenir un peu plus souverain, bah, il y a le nucléaire, mine de rien, qui revient au goût du jour, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Non.
Et le plus rapide, c'est quand même l'éolien et le photovoltaïque. Donc, je suis tout à fait d'accord. C'est qu'au départ, l'argument ESG qui était mis en place, c'est un petit peu toujours ce qu'on avait dit. C'est tant qu'il n'y a pas un événement un peu capitalistique qui permet, on va dire, de conjuguer bénéfices, rendements et sujet ESG, ça ne marchera pas. Peut-être que là, on est en train de le trouver. Mmh. Et au contraire, par rapport à la déflation, c'est peut-être un peu l'effet inverse. Alors, la croissance, ça, c'est un vrai sujet, mais ça peut être inflationniste, justement, en fait, de remettre, on va dire, un certain nombre de sujets en interne et en Europe. C'est évidemment pas les mêmes coûts que de le faire ailleurs.
Bastien Baron de Justaé et Olivier Le Chevalier de DevTech, merci infiniment d'avoir été avec nous, passionnant ces problématiques de souveraineté et d'énergie.